Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, un contrat est signé entre l'Agence de l'eau et l'agglomération Manosquine. Pendant 3 ans, plus de 3,5 millions d'euros vont accompagner la collectivité pour améliorer l'existant et préserver la ressource. À Sisteron, Chris Alessandri s'est rendu sur le marché du mercredi matin. Forains et clients répondent à ses questions. À Digne, la boulangerie Farge propose une galette des rois sous le sceau du patrimoine. Explication dans ce magazine. Quelques rendez-vous à la librairie Le Bleuet pour ce début d'année. On y célèbre la lecture, le cirque romanesque, mais on y parle aussi d'inceste et de pédophilie. Nous entendrons Marc Gaucheran. La librairie dinoise La Ruelle, en phase de rénovation. Odile Frison a interviewé Marlène Deneuve. Son reportage dans un instant. L'entre-deux Biac affiche pendant un mois les couleurs du cirque en région. Le reportage de Colline Jutet à la fin de ce magazine. DLV Aglo, un contrat majeur pour la gestion de l'eau.
Pendant 3 ans, l'Agence de l'eau va soutenir Durance-Luberon-Verdon agglomération à hauteur de plus de 3,5 millions d'euros, près de 3 millions pour l'eau potable et l'assainissement sur les réseaux, stations d'épuration et points de captage, par exemple de nombreuses communes, une aide de 405 000 euros pour établir le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et enfin 234 500 euros sur la GEMAPI. Sur ce dernier point, la taxe instaurée par l'État et les contraintes induites ont créé bien des émois chez les élus. Le soutien de l'Agence de l'eau est bienvenu et va concerner, entre autres sujets, le renouvellement des réseaux, la désimperméabilisation des sols ou encore la constitution d'une gouvernance sur les bassins versants du Largue et du Lauzon. Rappelons qu'en décembre 2019, une inondation conséquente a causé la mort d'une automobiliste entre Saint-Mesmes et Volx. Des sujets que nous évoquons avec Jean-Christophe Pétrini pour DLV Aglo, qui était accompagné pour signer ce contrat de Serge Faudrin et Gilles Mégis, ses vice-présidents en charge de ces dossiers. Mais d'abord, Annick Mièvre, directrice PACA Corse de l'Agence de l'eau. Elle présente sa structure. Annick Mièvre.
L'Agence de l'eau, c'est un établissement public du ministère de l'écologie qui a pour but d'atteindre le bon état des eaux, c'est-à-dire d'améliorer le fonctionnement de l'eau dans son milieu naturel, lutter contre les pollutions et s'assurer qu'il y ait suffisamment d'eau dans les cours d'eau pour qu'ils fonctionnent normalement.
Vous travaillez également en liaison avec les EPCI, autrement dit les communautés de communes, les agglomérations, les mairies ?
Tout à fait, on travaille non seulement en liaison, mais ce sont nos partenaires principaux, puisque nous venons apporter des financements, mais il faut qu'il y ait derrière des maîtres d'ouvrage qui portent des actions de lutte contre les pollutions, d'économie d'eau, d'amélioration des zones humides, etc. Donc ce sont nos partenaires privilégiés.
D'où viennent vos financements ?
Nos financements, ils viennent de la redevance sur l'eau qui est perçue donc selon le principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Toute personne qui pollue l'eau ou qui prélève de l'eau paye une redevance qui nous sert ensuite de revenu pour financer des projets en faveur de l'eau et des milieux aquatiques.
Votre mission, c'est d'encourager les communes et les agglomérations notamment. Vous avez un pouvoir de sensibilisation au niveau de ces collectivités ?
Alors un pouvoir, je ne sais pas, par contre un rôle certainement, ça fait partie effectivement de notre angle d'attaque, c'est-à-dire qu'on essaye de porter la politique de l'eau, on vient au contact des collectivités pour leur expliquer comment on peut les aider et essayer de les sensibiliser, de les inciter à mener des actions.
Vous avez rappelé qu'ici, le territoire, c'est un territoire rural, mais qui dépend aussi de la volonté nationale.
Oui, alors effectivement, l'Agence de l'eau, on a aussi un mécanisme de redistribution entre les territoires urbains où la redevance est le plus prélevée puisqu'il y a le plus de population et d'activité, vers les territoires ruraux où il y a moins d'activité et de population, mais où il y a aussi beaucoup de besoins. Donc ces territoires ruraux font l'objet d'une attention particulière pour remettre à niveau notamment les réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Vous avez évoqué des situations un petit peu particulières en ce qui concerne les eaux pluviales avec la désimperméabilisation.
Oui, alors la désimperméabilisation, c'est un terme un peu barbare, pour simplement dire qu'aujourd'hui, on a une autre approche de gestion des eaux pluviales où on essaye de favoriser l'infiltration de ces eaux là où elles tombent. C'est-à-dire qu'on essaye de ne plus les canaliser vers des tuyaux, mais de les laisser infiltrer là où elles tombent, ce qui permet de limiter les pollutions, ce qui permet aussi d'amener de la nature dans les secteurs urbanisés, d'amener de la biodiversité, qui est un enjeu aussi très important, sa préservation est très importante. Donc c'est effectivement une nouvelle façon de gérer les eaux pluviales qu'on essaye de prôner auprès des collectivités.
À vos côtés, Jean-Christophe Pétrinier, qui est le président de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, c'est un partenaire essentiel, financièrement parlant, l'Agence de l'eau.
C'est un partenaire essentiel et primordial. Depuis des années, nous travaillons ensemble en coopération. C'est d'autant plus essentiel et primordial aujourd'hui. Vous le savez, l'État nous a transféré, nous a demandé de prendre en charge des compétences comme la GEMAPI et la GEPU, la gestion des eaux pluviales urbaines et la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Nous assumons ces compétences à la place des communes. Par contre, l'État ne nous a pas transféré de recettes pour pouvoir les assumer. Donc il est d'autant plus primordial qu'on puisse travailler avec l'Agence de l'eau, qui nous aide, vous l'avez vu, de manière assez conséquente financièrement, et qui vient maintenant sur ces compétences-là aussi, et qui venait avant, mais maintenant à l'échelle du territoire, sur la GEPU et la GEMAPI, on en a bien besoin. Parce que l'État nous a dit, écoutez, vous assumez ces compétences-là, alors vous pourrez prélever de l'impôt. C'est facile, mais voilà, on a besoin de l'Agence de l'eau. Je remercie encore Madame Mièvre et l'Agence pour le soutien au quotidien depuis des années concernant donc ces compétences-là.
Votre vice-président en charge de cette question a parlé effectivement des réseaux qu'il faut rénover. Donc ça, c'est une charge financière extrêmement importante. Et également de la préservation de la ressource en eau.
Mais c'est lié, hein. On travaille sur les rendements, donc automatiquement, au plus on aura de rendements corrects, au moins on prélèvera dans les ressources naturelles. On travaille là-dessus, mais pas que sur les pollutions, Madame vient de le dire. On a tous ces axes à mettre en avant et bien entendu, on travaille en relation étroite puisque l'agence finance que certains axes et c'est sur lesquels nous allons.
Et puis, il y a la question d'autres intercommunalités, comme par exemple le Pays de Fort-Calquier, Montagne de Lure, et puis également Bâlon et Haute-Provence avec la DLVA. Autrement dit, c'est la gestion du largue, c'est assez compliqué.
Oui, puisque vous parlez du largue et notamment du Lauzon, ce sont des cours d'eau orphelins sur lesquels il a fallu qu'on commence à travailler de manière assez importante, puisque malheureusement, vous l'avez vu, il y a 2 ans, avec les fortes inondations, nous avons eu un décès sur le largue. Ce cours d'eau traverse 3 intercommunalités et d'ailleurs l'Agence de l'eau l'a précisé. Il faut que nous travaillions en coopération sur ces 3 intercommunalités pour la protection des inondations. C'est une évidence parce que travailler chacun de son côté, c'est pas efficient. Il faut qu'aussi les intercommunalités s'associent sur ce travail-là lorsque les cours d'eau traversent leur territoire.
C'est l'État qui assure cette cohérence ou c'est vous-même ?
L'État essaie de faire en sorte qu'on puisse avoir du travail de coopération le mieux possible. Mais sinon, c'est entre intercommunalités. On se voit entre présidents, entre vice-présidents délégués à cette compétence-là pour essayer de trouver des solutions pour travailler ensemble.
Un marché hebdomadaire accueillant à Sisteron.
Depuis le 5 janvier 2022, le marché du mercredi matin de Sisteron a quitté la place de l'Horloge pour la place Paul Arène, un transfert qui permet aux exposants et visiteurs de plus profiter du soleil pendant les mois d'hiver. Et toujours une ambiance agréable pour ce rendez-vous qui permet de flâner entre les tréteaux et de trouver des produits du terroir. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange avec les producteurs, où les occasions d'aborder les sujets d'actualité et d'échanger les avis ne manquent pas. Réaction des exposants et des clients du marché, au micro de Chris Alessandri.
Nous sommes sur le marché de Sisteron, le marché du mercredi matin. Vous êtes exposante, madame. Alors comment ça se passe? Comment définir un tout petit peu cette ambiance qui règne le mercredi matin sur la place Paul Arène à Sisteron?
Depuis 2 ans, c'est comme ça, donc aucun problème. On est habitué, on a les gestes barrières. aucun souci, rien de particulier. Une habitude en fait, c'est devenu une habitude.
Comment se comportent les personnes qui vous abordent et les clients qui sont là sur le marché ?
Aucun problème. Les gens sont assez respectueux les uns des autres, le masque, et... donc on voit bien d'ailleurs, hein. Pas de souci particulier, non, il n'y a rien de... Un peu d'agressivité parfois chez les gens qui ne veulent pas porter le masque, quelques-uns d'entre eux.
Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites ?
Je ne sers pas. Pas de masque, je ne sers pas. Je suis une des rares à le faire.
Vous le dites comment ? Comment vous le formulez ça ?
Je demande, est-ce que vous pouvez porter votre masque ? Si vous voulez, je vous en donne un. En général, les jeunes, ils disent oui, bon, je vais le mettre. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas. Très peu, très très peu.
Qu'est-ce que vous avez à la vente ?
Fromage, essentiellement, avec un peu plus d'une 70aine de variétés de fromages et un peu de salaisons. Il y a des fromages locaux, et d'ailleurs, comté, etc. Donc évidemment, parce qu'il y a une diversité en fromages qui est importante en France. Et puis voilà.
Vous êtes une habituée du marché de Sisteron ?
Oui. Ah oui. Donc, on vient aussi le samedi. Donc ça se passe assez bien pour tout le monde. Voilà, c'est des jolis marchés. Le mercredi, c'est un peu plus calme, c'est normal. Mais il faut jouer le jeu, donc on est là. Voilà. En petit comité, mais on est là.
Merci. Monsieur, vous êtes exposant, vous êtes en plein soleil, le marché de Sisteron.
Ça reste un marché super agréable. On fait attention aux gestes barrières comme on nous le demande, mais bon, tout le monde se fait plaisir. Un grand soleil, il fait bon, on profite, on prend l'air.
C'est pas la première fois que vous êtes là. La relation avec les passants, avec les gens qui viennent ici, comment est-elle ? Comment la définir ?
Très bonne. On est habitué. Il y a aussi des touristes qui passent un petit peu, donc on discute, on se fait plaisir. Voilà, très agréable.
Et là, avec vous, nous sommes dans le Champsaur, dans le 05. Qu'est-ce qu'on a comme spécialité ?
Tout à fait, c'est des tourtons et des ravioles. On produit donc dans le 05 à la Fraissinouse. C'est des bons produits avec des produits locaux qu'on fabrique à la main et qu'on revend ici.
Alors, est-ce que sur les conditions d'hygiène, les personnes vous posent des questions sur la traçabilité, sur la fabrication ?
De temps en temps, sur la fabrication surtout, mais après on a quelques petites photos comme ici. On a des images de nos fabriques. Les conditions, après là, on est en extérieur, donc il n'y a pas vraiment de contact. C'est nous qui servons les clients. On leur donne le sac, on a du gel hydroalcoolique sur les marchés et... On fait attention et voilà, il n'y a pas trop de stress non plus.
Vous remarquez une certaine discipline de la part des personnes qui sont là, des visiteurs ?
On porte le masque, oui, c'est bonne discipline, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez du marché, madame, de Sisteron ?
Je trouve que c'est bien. Mais j'en suis contente, moi. Et puis, je m'achète des trucs, là, pour manger à midi.
Qu'est-ce que vous achetez, madame ?
Des qu'on appelle ça ? Les machins roulés, là.
Les
mémènes, je ne sais pas comment vous appelez ça.
Et madame, ça va ? Nous sommes dans des conditions de sécurité, d'hygiène. Vous respectez le masque, vous le portez, vous faites attention.
C'est embêtant parce que moi, déjà, comme j'ai été malade, il me faut de l'air. Avec le masque, ça me gêne un peu.
Et ça va, vous le mettez quand même ?
Je le mets quand même. Je préfère que je me retrouve à l'hôpital. Hein.
Bonjour monsieur, je peux vous poser une question ? Oui, vous êtes dans quel domaine monsieur ?
C'est la fête, tout. La poulet laquée, canal laquée, nouilles crevettes, nem au porc poulet, nem crevettes, poulet yam, nouilles sautées, légumes, salade poulet, salade crevettes, beaucoup de plats.
Comment ça se passe avec les clients ?
C'est Maxi Sitogon, mercredi Maxi Sitogon. Oui, ça va, c'est très très bien. Oui. Merci beaucoup.
Bonjour madame, vous avez de très beaux articles. Là, qu'est-ce que vous vendez sur le marché des Sisteron ?
Eh bien, moi j'ai un stand de vintage, ou rétro, c'est plus français. Hein ?
Alors ça marche beaucoup le vintage ?
Oui, oui. Moi j'ai racheté le stock d'une usine de boutons qui a fermé en 1953 à Grenoble. Et ensuite, je rachète des invendus de magasins, je fais de la couture aussi pour les personnes, je la retouche, voilà.
Qu'est-ce qui marche bien ? Moi, je vois des combis des années 70, des pattes d'œuf, là, c'est superbe.
Bah oui, 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 tout ça, oui, oui, tout à fait, hein.
Est-ce qu'on est un peu dans le peace and love aussi ?
Oui, 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 oui. Et puis, voilà, la paix et l'amour, faudrait qu'on y soit toujours.
Est-ce qu'on y est encore ?
Bah maintenant, avec toutes ces méfiances, c'est dur, hein, c'est difficile, hein. Tout le monde commence à se méfier, tout le monde, il y a de plus en plus d'éclats, les une dose, les deux doses. Ouais, c'est...
Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous êtes au contact même de toutes ces personnes qui sont là, qu'est-ce que vous entendez comme réflexion ?
Les gens, ils sont complètement, enfin, ils ont peur à la fois d'être malades et à la fois de se faire dénoncer s'ils n'ont pas un comportement, soi-disant, comme il faut. Ouais, réglementaire, très bien, c'est le mot. Donc voilà, ça ne met pas une bonne ambiance, hein ?
Qu'est-ce que vous faites alors dans ces cas-là ? Parce que vous avez le sourire, là.
Ah oui, 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 oui. Ben, moi, je me rends compte, en fait, que plus on se vaccine, plus il y a de déviants, plus il y a de... moins ça s'arrange. Et je suis étonnée qu'on ne parle pas de l'immunité. Jamais on n'entend parler de ça. Il n'y a aucun médecin, personne qui parle qu'il faut d'abord favoriser son système immunitaire. Enfin, c'est d'abord ça qu'il faudrait travailler. Enfin, bon, voilà.
Dans l'ensemble, les gens sont comment avec vous ? Ils sont sympas ? Comment ça se passe, la relation ?
Oui. Ben, avec moi, ils sont détendus.
Monsieur, oui, oui. Je peux avoir votre réaction sur le marché en lui-même. Comment ça se passe pour vous ? Parce que là, vous avez le masque, vous faites attention.
Oui, là, franchement, je suis vraiment satisfait du marché. Je peux aller n'importe où, les commerçants Ils sont très sympas, donc une ambiance phénoménale. On se connaît presque tous. D'ailleurs, je vais vous dire exactement. Déjà, je suis vosgien d'origine. Alors, une personne qui me plaît pas, je lui dirai de suite. Voilà, vous me plaisez pas, terminé, on n'en parle plus.
Et vous aimez la radio, Fréquence Mistral?
Oui, oui, parce que je l'écoute.
Merci beaucoup, messieurs, dames. Là, vous êtes client, vous venez d'acheter des légumes, visiblement. Pour vous, ça représente quoi, ce côté relationnel, ce marché qui perdure ici à Sisteron, malgré certaines conditions?
On perd pas, en fait, la proximité avec les commerçants qui viennent chaque semaine, qui se déplacent, qui fassent froid, qui fassent chaud. Ils viennent toutes les semaines et c'est vachement bien.
C'est important pour vous?
Pour la ville de Sisteron, je trouve que c'est bien, oui. C'est ça qu'on vient chercher dans un marché comme Sisteron. Le contact avec c'est du producteur au consommateur directement.
Ça va comme vous voulez, vous trouvez ce que vous cherchez?
Toujours, des produits locaux et de saison, du coup.
Qu'est-ce que vous prenez par exemple ce matin?
Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des betteraves, j'ai pris des navets, j'ai pris des bananes parce que bon, il faut un peu manger des bananes parce que je fais du sport et voilà.
Une galette des rois patrimoine pour la boulangerie Farge.
Frangipane couronne. À Digne, régalez-vous des galettes des rois fabrication Farge, tout en participant au grand jeu de l'épiphanie. Dans ces galettes, des fèves en porcelaine fabriquées en France ont la particularité de représenter des monuments du patrimoine de la ville de Digne-les-Bains. Le principe est simple, collectez les 10 fèves de la série et ramenez-les à la boulangerie, vous gagnerez 2 baguettes par jour pendant un an. La boulangerie Farge est installée à Digne sur le boulevard Gassendi depuis 1982. Artisan boulanger depuis 1999, Philippe Farge succède à ses parents dans le métier. À l'occasion de l'épiphanie, il a souhaité rendre hommage au patrimoine de sa ville en lui réservant une place dans la galette des rois. Une série de 10 fèves uniques et exclusives est donc à découvrir et permettra de gagner du bon pain chaque jour et toute l'année 2022. Les lieux emblématiques de Digne sont immortalisés en porcelaine, où l'on retrouve par exemple la cathédrale Saint-Jérôme ou encore la célèbre fontaine construite en 1828. Philippe Farge répond aux questions d'Odile Frison.
Philippe Farge, vous êtes artisan boulanger. C'est une entreprise à Digne qui existe depuis longtemps.
Oui, alors mon père avait racheté cette affaire à M. Barbier en 1982. Donc cette année, ça fera 40 ans.
Vous avez la particularité en ce mois de janvier de proposer des fèves pour des galettes des rois, des fèves en porcelaine à l'effigie de Digne-les-Bains, des monuments de Digne-les-Bains.
Oui, alors cette année, on a fait une opération spéciale avec une entreprise française qui construit toutes ses fèves en France, à Grenoble, sur les monuments de Digne. Voilà. Donc il y a un grand jeu, comme chaque année, pour gagner un an de pain gratuit. Il faut trouver les 10 fèves, donc sur toute la période des rois, donc juste après Noël jusqu'au 5 février.
Donc ça c'est une tradition, tous les ans vous faites...
Oui, tous les ans on fait ce jeu, et on a quelques gagnants d'ailleurs, qui réitèrent à chaque année leur bon.
La vente de galettes des rois, est-ce qu'il y a vraiment des préférences pour la frangipane ou pour la brioche?
Alors, je dirais que c'est... 50-50, mais la tendance est plus à la frangipane en ce moment. Mais l'année dernière, on avait à peu près calculé, c'était moitié-moitié.
Il y a deux boulangeries Farge à Digne.
Oui, alors on a la boulangerie sur le boulevard Gassendi, et on a ouvert il y a une dizaine d'années maintenant, une autre boulangerie dans la zone Saint-Christophe, entre la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne, derrière Carrefour. On fabrique tous nos produits 100% maison. Ça, c'est une ligne qu'on tient de rigueur.
Vous faites de la pâtisserie aussi?
Oui, oui, beaucoup de pâtisserie. On fait toute la pâtisserie classique, les éclairs, les babas, les cartels, tout ça. On a aussi beaucoup de snacking, les sandwichs, les pizzas, les quiches. Toute la viennoiserie est faite maison également. On a un panel de produits assez conséquent.
Est-ce qu'au niveau des matières premières, vous faites appel au circuit court?
On a deux fournisseurs, mais ce n'est pas vraiment des circuits courts, c'est des grossistes. Donc après, les produits qu'on utilise sont des produits de qualité. C'est vrai que ce n'est pas tout produit dans la région.
Alors pour ce grand jeu, pour revenir à l'épiphanie, donc j'apprends, les fèves sont en général fabriquées en Asie?
C'est vrai, en général, elles sont fabriquées en Asie. Et là, on a voulu faire justement une production française, 100% française. Et c'est Messiel qui fait ça, c'est à Grenoble.
Vous remarquez une clientèle plus touristique pour vos galettes ou ce sont les Vinois qui sont fidèles?
Ben pour l'instant, c'est les Vinois qui sont fidèles. Après, pendant la période de ski, en général, j'ai quelques Marseillais aussi qui s'arrêtent souvent, tous les ans, que je revois. Et qui viennent toujours me faire un petit coucou. Et qui prennent souvent la galette des rois.
Et alors, la ville d'Oudigne, vous n'êtes pas cette mise en valeur du patrimoine?
Ben, c'est vrai que j'en ai pas parlé à la mairesse. J'aurais peut-être dû. Mais non, ils ne m'ont pas donné de coup de main.
Est-ce que ça coûte cher pour se fournir en fèves, en porcelaine?
Oui, c'est un budget assez conséquent. Hein. La fèvre revient à 1,10€ à peu près.
Et cette tradition donc, existe depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces galettes?
Sur la tradition des rois? Après, sur les recettes de mes galettes, elles n'ont pas changé depuis leur création en 82 par mon père. Et j'ai changé aucun ingrédient.
Combien d'employés vous avez?
Actuellement, 7 et 3 apprentis.
Et vous-même, vous mettez la main à la pâte, comme on dit?
Oui, ben oui. Là, en ce moment, comme on est un peu en manque de personnel, je suis repassé à la fabrication. Mais j'avais arrêté un petit moment pour justement me concentrer à la vente et à mes clients. Et là, par la force des choses, je suis repassé au laboratoire.
Ça demande des horaires bien particuliers d'être boulanger.
Oui, c'est une vie totalement décalée. En plus, nous, on fabrique à l'ancienne, on va dire. On ne fait pas pousser en chambre d'un jour sur l'autre. Donc, ce qu'on produit la nuit, on le cuit dans la journée. Donc, oui, on commence à minuit et demi. Et on finit quand c'est fini.
Donc, c'est les siestes de la journée?
C'est ça. C'est comme les hiboux.
Vous avez toujours ce deuxième magasin, la zone Saint-Christophe?
Oui, 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 toujours. D'ailleurs, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et le week-end, il est ouvert le matin de 8 à 13.
Il y a eu une baisse de fréquentation?
Non, pas spécialement. Non. On est resté ouvert, donc c'est vrai que les habitudes des gens ont changé. C'est pas tant une baisse de fréquentation, c'est que les gens ne consomment plus comme avant. Ils ont changé leur habitude. Il y en a certains qui viennent plus que deux fois dans la semaine. Ils prennent plus. Mais avant, ils venaient tous les jours. Maintenant, ils viennent plus que deux fois dans la semaine.
Donc, un changement de rythme, simplement.
Voilà, un changement d'habitude.
Pour passer des commandes, il y a un numéro de téléphone.
Oui, il y a un numéro de téléphone. C'est le 04 92 31 00 73. Après, on est aussi sur Internet, Facebook, Instagram. On est présent sur les réseaux. On est aussi une entreprise qui essaye de gaspiller le moins possible. On est membre à Togo. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur Digne. C'est une application qu'il faut télécharger. Et tous les soirs, on met en vente nos invendus en fin de journée à un quart de prix. C'est réduit, on ne peut pas tout avoir, mais c'est des paniers surprises et en général, les gens sont contents.
Comment s'appelle cette application?
Tout beau. Ça veut dire trop bon pour être jeté en fait.
Ben non, janvier c'est Bleuet.
Marc Gaucheran de la librairie Le Bleuet présente le programme de janvier avec notamment le vernissage de l'artiste peintre Caribou, les nuits de la lecture pour petits et grands, et puis le 29 janvier, un rendez-vous sur la pédophilie et l'inceste avec les écrivaines Eva Thomas et Camille Kouchner, notamment autour de son livre Grande Familia. Dans un deuxième temps, Marc Gaucheran revient sur l'espace culturel de la librairie ouvert depuis peu, et qui propose le cirque romanesque en peinture de l'artiste Caribou. Il répond aux questions de Mathieu Marc. Marc Gaucheran.
Nous aurons tout au long du mois de janvier cette exposition de peinture de la peintre Caribou sur le cirque romanesque. C'est l'occasion d'indiquer que l'espace culturel du Bleuet accueille régulièrement, depuis 6 mois, depuis qu'il est ouvert, des expositions. C'est la 4e exposition Ça peut être des expositions de peinture, mais aussi de photos. Nous en avons eu 3 déjà, de sculptures. Donc, c'est un espace varié où nous essayons d'articuler littérature et art plastique. On le voit bien en tous les cas avec cette exposition sur le cirque, puisque ça donne lieu à la venue justement du fondateur Alexandre Romanès, du fondateur du cirque Romanès, qui est un poète qui a publié donc plusieurs recueils, en particulier chez Gallimard, mais aussi dans d'autres maisons d'édition. Et donc le vernissage aura lieu le samedi 15 janvier, en présence du poète, avec présentation du film sur le cirque à 16h le même jour. Bienvenue aux familles, bienvenue aux enfants. Le samedi 22 janvier, comme la plupart des librairies de France, nous accueillons les Nuits de la Lecture. Alors, à partir de 17h pour les enfants, autour d'un goûter, et donc ce sont des histoires d'amour, puisque le thème national cette année, c'est « Amour encore, amour toujours ». À 18h pour les ados, sous forme d'échange, ça marche toujours très bien, et donc bienvenue aux ados pour ce moment. Et à partir de 19h pour les adultes, avec diverses animations dans la librairie. Donc vous retrouverez tout ce programme sur le site internet du Bleuet, sur les réseaux sociaux, tout cela se trouve très facilement sur la toile. Ensuite, pour fin janvier, il y a une dernière rencontre importante, le samedi 29 janvier, puisque nos rencontres ont lieu en général le samedi à 11h. C'est une rencontre avec Camille Kouchner, qui est une autrice dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, puisqu'elle a publié Grande Familia, donc un livre, je dirais, d'actualité et de témoignages sur l'inceste et la pédophilie. Il s'agit d'un témoignage familial, donc un livre d'autant plus marquant. C'est un livre qui a déclenché beaucoup de réactions d'ailleurs en France, une vraie prise de conscience et la mise en marche en quelque sorte d'un mouvement par rapport à ces questions douloureuses. Donc rencontre au Bleuet le samedi 29, suivi du dimanche au Grand Sceau. On trouve cela sur le site du Bleuet, donc d'une séquence de lecture toujours sur le même sujet. Voilà.
Est-ce qu'il faut réserver, s'inscrire? Comment ça se passe? Où on vient? Et en fonction de la jauge, vous acceptez ou non les gens?
On ne refuse jamais personne au Bleuet. Ça, effectivement, ces rencontres attirent beaucoup de monde venant de loin, mais il y a de la place et donc on s'arrange toujours pour accueillir les personnes qui viennent, en particulier quand elles viennent de loin.
Et vous vouliez rajouter quelques mots, Marc Gaucheran, sur cet espace culturel qui a ouvert depuis peu à la librairie Le Bleuet.
Effectivement, la librairie s'est adjoint un espace culturel depuis le mois de mai 2021. Donc maintenant, il y a un peu plus de 6 mois. C'est un espace que l'on a créé dans le cadre du projet Leader avec l'Europe, donc avec des financements européens. C'est un programme de développement des zones rurales, donc des projets en milieu ruraux, ce qui nous a permis d'aménager donc au sein du Bleuet un espace en dehors donc de l'espace librairie, qui nous permet de recevoir donc les auteurs avec du public, ce qui jusqu'à présent était un petit peu compliqué, se faisait au milieu des rayons, mais de façon un petit peu compliquée. Donc c'est évidemment beaucoup plus agréable et je dirais plus posé. Et comme nous avons des murs nus, que nous avons aménagé pour des expositions, donc des expositions variées de peintures, de photos, de sculptures, etc. Donc nous en sommes à la 4e exposition maintenant, depuis le mois de mai.
Digne, la librairie La Ruelle va faire peau neuve.
La boutique va engager des travaux d'agrandissement avec une salle de 60 mètres carrés supplémentaires et une librairie plus accueillante et plus moderne. En attendant la fin des travaux, la librairie se déplacera dans un autre lieu pendant une petite semaine pour pénaliser le moins possible ses lecteurs. La libraire Marlène Deneuve répond aux questions d'Odile Frison.
Marlène Deneuve, la librairie La Ruelle, va fêter cette année ses 42 ans d'existence déjà à Digne-les-Bains.
Oui, c'est ça. Elle a été créée en 1980.
Et donc, vous allez lui faire subir quelques rénovations.
Voilà, on va essayer de lui redonner un petit coup de jeunesse, un petit coup de jeunesse, surtout un agrandissement aussi. On le cachait jusqu'à maintenant, mais on va avoir une salle de quasiment 60 mètres carrés en plus. Remise aux normes pour un accès handicapé beaucoup plus simple, peinture. Enfin voilà, quelques surprises qui j'espère seront bonnes pour tout le monde. Voilà, peau neuve pour ses 42 ans.
Librairie bien connue à Digne-les-Bains, située sur la place du Général de Gaulle, va être fermée quelque temps, mais il y a moyen quand même de se ravitailler en livres. Comment ça va se passer pendant les travaux ?
Oui, oui, alors bien sûr, pendant les travaux, là, on prévoit le déménagement. On est obligé de fermer une semaine, donc ça sera du 7 au 14 février, le temps de tout vider et de déménager. Et vu qu'on ne pouvait pas fermer pendant 2 mois et demi le magasin, on a essayé de trouver une petite boutique éphémère, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, et qui se situe au 74 boulevard Gassendi. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est en haut du boulevard Gassendi, tout en haut, au-dessus de la place, c'est après le musée Gassendi. Il y a un grand parking juste en face, c'est entre le musée Gassendi et la Grande Fontaine.
Donc ça veut dire que vous allez tout déménager là-bas pendant le temps des travaux ?
C'est ça, nous avons 4 jours pour déménager l'intégralité des livres, des étagères, des tables, les réaménager là-haut et après essayer de vous accueillir au mieux possible. Peut-être que la première semaine sera un peu chaotique, mais voilà, on essaiera d'accueillir la clientèle comme on faisait ici, dans un local un tout petit peu plus petit. Ça va durer jusqu'à, on va dire, début mai. Et normalement, entre le début mai et la mi-mai, nous revenons dans nos locaux en face de la mairie, sur la place de Gaulle.
Donc ce sera juste le seul petit désagrément, c'est cette fermeture d'une petite semaine.
Voilà, il y aura la deuxième semaine de février, du 7 au 14, où vraiment il faut qu'on déménage. Et après, bien entendu, ça sera le réaménagement, donc je suppose la dernière semaine d'avril ou la première de mai. Mais ça, je vous donnerai plus de détails. Mais on sera obligé de fermer quelques jours aussi pour tout déménager de notre boutique éphémère pour revenir chez nous. Bien entendu, entre-temps, les commandes clients marchent toujours. On pourra accueillir la clientèle et on a le site internet qui marche comme d'habitude, quoi.
On rappelle les horaires d'ouverture.
Alors, les horaires d'ouverture resteront comme aujourd'hui, c'est-à-dire le lundi de 14h à 19h et après du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h.
Donc, du mardi au samedi de 9h à 19h sans interruption.
Et ça, voilà. C'est le lundi après-midi.
Ce sont des horaires que vous avez mis en place, l'ouverture entre midi et 2.
Alors, on a mis en place ces horaires depuis le début d'année, justement, avec le Covid. On s'est dit, il y a beaucoup de gens qui nous l'avaient demandé. Donc, on a fait des journées continues depuis janvier 2021, du coup.
Et vous avez remarqué, donc, une influence du public dans ces nouveaux horaires?
Alors, il a fallu les premiers mois que la clientèle s'y habitue. Là, ça commence à bien marcher, oui, entre les administratifs, pendant le marché, etc. C'est vrai que, oui, non, il y a pas mal de gens.
Pour commander, il y a un numéro de téléphone, mais il y a aussi le site internet. Qu'est-ce qui est préférable?
Alors, le numéro de téléphone, je vous redonne au cas où, c'est le 04 92 31 50 19. Après, idéalement, c'est vrai qu'avec le site, le téléphone qui va être à droite à gauche, le site sera peut-être plus simple. C'est www.librairielaruelle.com. Là, vous avez l'intégralité des livres disponibles que nous avons en stock ou que nous pouvons commander. Et voilà, en un clic, payable sur site ou pas. D'ailleurs, vous pouvez venir les payer en librairie. Oui, il marche bien et il continuera à marcher, surtout pendant notre déménagement.
Est-ce que avec cette crise sanitaire qui dure quand même depuis pas mal de temps, le drive continue pour les personnes qui veulent pas se mélanger à la foule?
Alors oui, dans les faits, oui, on l'a proposé et on demande aux gens qui veulent justement sur le site ou de nous passer un coup de fil ou sur le site de nous mettre un petit mot s'ils veulent être livrés dehors. Mais dans les faits, je vous avoue que pour l'instant, on me l'a pas encore demandé, mais c'est tout à fait possible.
Est-ce qu'il y a des temps forts prévus dans le courant de l'année?
Alors là, cette année va être assez rocambolesque pour nous, en tout cas. Ce qui est prévu et ce que je compte vraiment faire, j'en ai vraiment envie, c'est de faire une belle inauguration pour notre réouverture. On avait pensé à un grand nom, genre un Tesson, un Sylvain Tesson, ou après on se basait aussi sur un auteur de BD. On aimerait bien avoir Davodeau ou Catherine Meurice, enfin voilà. On essaye d'avoir au moins une pointure qui marque le coup et qui nous amène le printemps d'une façon positive et relaxante.
Est-ce que les fêtes de Noël ont permis... Les Dinois offrent beaucoup de livres?
Alors oui, le livre est toujours un cadeau très apprécié parce que du coup, il y en a déjà pour tous les goûts, autant en jeunesse qu'en adulte, qu'en mature, et pour tous les budgets. Ça peut être une poche à 6 euros comme un livre à 100 euros, donc... Cette année encore, le livre a été bien représenté sous le sapin.
À la librairie La Ruelle, il y a aussi des jeux éducatifs, il y a aussi des petites choses sympas.
Oui, nous avons, pour la jeunesse, on a pas mal de petits jeux de puzzles, de jeux de cartes, de jeux de logique. Pour les grands aussi, les puzzles ont fait un succès là à Noël. On a, voilà, on essaye d'avoir un peu de papeterie, qu'on essaiera aussi d'agrandir dans le futur local. Normalement, il y en a pour, voilà, entre la BD, le roman classique, la nature, la jeunesse, il y en a pour tout le panel de la population, pour tout niveau de lecture.
Est-ce qu'on peut rappeler comment fonctionne votre site?
En gros, vous avez en haut nos coups de cœur récents et moins récents, d'ailleurs, avec un petit texte qu'on a mis nous. Après, vous avez bien sûr les meilleures ventes ou les livres primés que vous pouvez sélectionner. Et après, sinon, vous avez l'intégralité des livres qui sont proposés par la BNF. Le site va vous dire si je les ai en stock, si je les ai à plusieurs exemplaires, s'il faut le commander, etc. Mais au moins, vous avez une petite image, un récapitulatif de l'ouvrage, le prix, sur tous les ouvrages disponibles à la BNF.
C'est quoi la BNF ?
Bibliothèque nationale de France.
Évidemment.
C'est la bibliothèque qui référence, dès qu'un livre est paru, elle a l'obligation de le référencer. L'essentiel, c'est vraiment, on essaye d'agrandir cette surface qui nous manquait cruellement jusqu'à maintenant, remettre un coup de neuf à tout ça, voilà, marquer le coup et que l'endroit soit plus grand, plus agréable, plus convivial et avec une équipe qui est toujours la même et qui tourne bien.
L'antre de Biac affiche les couleurs du cirque en région.
Arcaos est une compagnie réputée et un pôle national cirque basé à Marseille. Elle a créé et organise tous les ans des manifestations originales, la Biennale internationale des arts du cirque et également l'antre de Biac qui se déroule actuellement jusqu'au 13 février. Un mois durant, ces rendez-vous offrent des espaces pour découvrir ou redécouvrir l'évolution du monde circassien contemporain avec des compagnies internationales mais aussi de Marseille et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Co-directrice d'Arcaos, Raquel Ratch de Andrade, revient sur les intentions et la programmation du festival de l'Antre de Biac. Elle répond aux questions de Colline Juté.
L'Antre de Biac, c'est tous les deux ans. Et cette année, en 2022, c'est du 12 janvier au 13 février, 44 spectacles, dont 10 créations pour 140 représentations à Marseille et dans 31 villes de la région sud. Alors, qu'est-ce qui lie ces 44 spectacles entre eux?
Alors, c'est la création, le cirque contemporain. Et ce qui le lie, c'est la diversité. En fait, plus il y a des diversités, plus il y a des propositions, mieux c'est, parce que il y a une vitalité des créations. Ces artistes d'aujourd'hui, ils sont assez étonnants et détonnants.
Comment vous avez fait le choix d'une telle programmation pour cette année-là?
Alors, il y a eu beaucoup de reports de l'année dernière parce qu'on n'a pas pu ouvrir au public, seulement aux professionnels. Donc, il y a eu 18 spectacles qui ont été reportés de l'année dernière à cette année. Et surtout, on travaille vraiment une programmation partagée avec plusieurs partenaires dans toute la région sud. Bien sûr, il y aura beaucoup de spectacles à Marseille, mais aussi à Aix, aussi à Gap, à la Seyne-sur-Mer, enfin à Cavaillon. Enfin, c'est vraiment toute la région qui se met dans les couleurs du cirque. C'est la 4e édition de l'Antre de Biac. En fait, il y a la Biennale. Et l'Antre de Biac, normalement, il est plus petit, il est seulement dans la métropole. C'est vraiment une édition très spéciale à cause de la crise sanitaire. Donc, on a décidé d'ouvrir parce que ces artistes, ils ont travaillé pendant des mois, des années pour avoir ces moments d'échange avec les publics. Donc, cet Antre de Biennale, c'est vraiment sur les signes des retrouvailles. C'est du lien avec les publics, les retrouvailles avec les publics. Les artistes, ils ont envie d'échanger, de montrer leur point de vue sur ce qui se passe en ce moment, mais aussi sur leur poétique, leur univers. Donc, c'est un moment très important et réjouissant.
Donc, l'ambition derrière ce réseau entre chaque scène, ce réseau entre tous ces artistes, c'est aussi de créer donc des rendez-vous tous les deux ans et de permettre d'ouvrir la scène une fois de plus.
C'est ça. Les cirques, et il a l'avantage d'assimiler, d'ouvrir les bras à tous les autres arts. Et le fait de mélanger au théâtre, à la danse, à la musique, au numérique aussi, parce qu'il y a des spectacles qui ont un lien avec les numériques. Donc, c'est une manière de dire et de redire que l'art est essentiel, qu'il est important d'ouvrir toujours et rester ouvert pour que les choses s'échangent et qu'on soit toujours dans le mouvement. C'est ça qui est important dans la vie et dans l'art, c'est les mouvements.
Et alors, est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette programmation diverse et variée ?
Alors, j'en ai plein, mais je vais parler d'un. C'est Joan Leguierme qui est un artiste unique. Il va commencer à se présenter les 14, donc vendredi 14 janvier. Il va aller jusqu'au 6 février. Il va monter son chapiteau avec nous, bien sûr, avec tous les techniciens qui vont l'aider, avec sa nouvelle création, Terce. Et c'est un artiste unique parce qu'il lie l'art visuel et l'art vivant. Et c'est vraiment, il construit des œuvres et il travaille comme des agrès de cirque sur ses œuvres.
Et alors, vous ouvrez aussi la salle d'Archaos à Marseille. Ça se passe donc dans le lieu qui dirige, organise, crée cet événement de l'Entre-deux-Biac.
Alors, cet événement, c'est créé par moi-même, Raquel Rache d'Andrade, qui suis co-directrice de la Biac d'Archaos Pôle National Cirque, et Guy Carrara, qui est co-directeur avec moi. Et il y a Simon Carrara aussi, qui est directeur délégué. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a créé depuis 2015. La BIAC, mais l'entre-deux biennale, c'est depuis 2016. Et à Marseille, donc dans notre salle Archaos, on va voir une compagnie portugaise, Otus, qui va présenter son spectacle Otus. La compagnie, c'est OEB. Et puis aussi une compagnie de la République tchèque qui va présenter Heroes. Et c'est une manière particulière de voir les héros d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une résonance avec ce qu'on vit en ce moment. Ils mettent l'héros sur quelqu'un qui a un accident et qui devient héros de sa propre vie. Et les médecins, ils sont héros aussi parce qu'ils le sauvent sa vie. Donc c'est une manière de voir ce qu'on vit en ce moment, mais d'une manière aussi réjouissante, parce qu'il y a les acrobaties, on a l'effet « waouh !» Et je veux dire, il y a ces corps en mouvement qui nous parlent, qui ont une résonance avec ce qui se passe, mais aussi qui nous donnent de l'espoir.
Donc, toute une belle programmation à suivre sur votre site.
Oui, c'est www.biennale-cirque.com.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Merci Olivier pour la régie et à la semaine prochaine.